L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h53. Nous sommes le 17 mars 1952 sur les bords de la Somme, en France. La ville de Royal-les-Eaux s'étend à l'horizon et James Bond, le cœur haletant, se prépare à mettre en jeu sa propre vie au cours d'une partie de baccarat. Un verre de brandy sur son bureau, une cigarette fumant encore dans le cendrier. Ian Fleming, son créateur, s'apprête à donner des sueurs froides à l'agent 007. 22h53, l'heure H de mon récit. Une heure plus tôt, l'agent secret du MI6 est arrivé en compagnie de la magnifique Vesper Lynd, une beauté fatale qui lui sert d'agent de liaison pour cette mission très particulière. Depuis quelques semaines, il est à la recherche du chiffre. Un agent soviétique qui veut récupérer une importante somme d'argent fournie par les services secrets de l'URSS. À force de trop jouer, il a tout perdu. C'est un redoutable adversaire pour Bond, qui n'emmène pas large. Il n'est tout de même pas un enfant de cœur. Et rapidement, son instinct d'agent reprend le dessus. La discussion avec Vesper, le long des rues bourgeoises de la petite ville, tourne autour de son matricule. Mais pourquoi ce 007? Et en dépit de toutes les règles de confidentialité dictées par le MI6, il lui raconte que le premier zéro indique sa permission de tuer. Le deuxième, qu'il a déjà eu à commettre des meurtres. Le 7, enfin, est réellement sa position dans le listing du MI6. Rien de sorcier. Depuis quelques jours, il sent poindre une tension réelle entre eux. Amoureuse, véritable. Mais c'est pas le moment de penser à ses sentiments naissants. Pas encore. Il faut déjà battre le chiffre et contrecarrer ses plans. Et pour cela, rendez-vous est pris dans l'établissement de jeu de la ville thermale. Là, une table de 9 joueurs attend l'agent secret britannique. Déjà à son arrivée sur le sol français, sa couverture avait été éventée et tout le monde sait maintenant à qui il a affaire. Il a échappé de peu à une tentative d'assassinat qui aurait pu lui être fatale. Le chiffre, bien entendu, qui se tient en face de lui à table, le regard caché par des verres opaques, est derrière tout ça. Alors Bond, grâce aux 20 millions de livres mis à disposition par son employeur, compte bien l'empêcher de récupérer l'argent qu'il doit aux Soviétiques. Pour son ennemi qui transpire, aux mains moites et aux costumes trop serrés, cette partie est une question de vie ou de mort. Et tout pourrait s'arrêter là. James Bond pourrait gagner la partie et la mission serait terminée. Le chiffre serait mis hors d'état de nuire et basta. Mais Ian Fleming n'est pas un tendre avec son héros. Et les rebondissements autour de cette partie de baccarat vont être légion. En quelques heures, le soviétique dépouille complètement le British. Les 20 millions, envolés. Envolés dans la poche du chiffre. Tout est perdu. La mission est un échec. Mais l'un des contacts français de James Bond est là, avec une enveloppe. 32 millions supplémentaires, issus du plan Marshall. De quoi prolonger donc ce jeu de dupes qui tourne pour le moment à l'avantage de ses ennemis. Contre toute attente, alors qu'il n'y a plus aucun espoir et que Bond s'apprête à jeter l'éponge, Ian Fleming décide de modifier le cours des événements et de retourner la situation. Voilà que James Bond enchaîne les bonnes mains, à tel point que le soviétique est dépassé. Il perd, à la stupéfaction de tous les membres de l'Assemblée. Bond récupère au passage 70 millions et l'assurance que le chiffre est tout bonnement foutu. Mais comme dans chaque aventure du plus célèbre des espions, la situation dégénère. Le lendemain, la très belle agente de liaison est kidnappée par le chiffre. S'ensuit une extraordinaire course-poursuite en voiture sur les routes de campagne de la Somme. Au terme d'une dizaine de kilomètres avalés à haute vitesse, Bond tombe dans les griffes de son ennemi, qui le torture violemment afin de lui faire cracher le morceau. Où est planqué l'argent ? Notre agent secret a de la ressource et ne craque pas. Il est pourtant sur la ligne de crête. La souffrance est telle qu'il se sent défaillir, mais subitement, les services de contre-espionnage de l'URSS interviennent et tuent sans ménagement le chiffre. Fin de la mission, mais pas fin de l'histoire. Les deux agents, Bond et Lind, se rapprochent et deviennent amants. Pourtant, la jeune femme n'est pas à l'aise. Elle est sur ses gardes et avertit Bond qu'elle se sent suivie. Un matin, apercevant un visage qui lui est familier, elle est prise de panique. Le lendemain, Bond la retrouve inanimée. La jeune femme dont il vient de tomber amoureux s'est suicidée. Alors que l'agent fortement marqué par ses tortures souhaite quitter le MI6, cette nouvelle affaire de vengeance lui remet le pied à l'étrier. Ainsi se termine Casino Royale. Lorsqu'il met un point final à ce roman écrit en moins de 2 mois, Fleming, dans sa résidence GoldenEye en Jamaïque, s'affaisse dans son fauteuil. Ses problèmes de cœur ce soir le font souffrir. Il desserre son nœud de cravate, enlève son gilet de costume et va le poser sur le divan. Il prend le rythme de son pouls et celui-ci est irrégulier. Oh, son médecin lui a bien dit il y a quelques jours que le combo brandy-cigarette est particulièrement déconseillé, plus que ça même. C'est l'accélération vers le caveau. Mais bon, Fleming a traversé bien d'autres épreuves pour se permettre de flipper à chaque avis médical. Et tant pis s'il doit mourir d'un infarctus parce qu'il ne s'est pas mis de limite. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Le romancier est assis devant sa machine à écrire, les yeux dans le vide. Bien souvent, après de longues séances d'écriture, il se sent vidé. Émotionnellement, oui, mais aussi moralement. Alors tant pis pour son cœur. Il reprend une cigarette alors que le cadavre de la première fume encore dans le cendrier. Il regarde sa machine à écrire, le regard parcourant les lettres sur les touches. Il pense déjà à la suite. Ce livre-là, ce n'est qu'un premier jet. Et il doute un peu face à l'immensité de ce qui vient de sortir de son esprit. Il a son univers. C'est aussi ce qui caractérise les gens de génie, comme disait souvent sa grand-mère. Le doute, dans leur cas, est une qualité. Fleming sourit, alors que la fumée qu'il inhale ressort par ses narines. Oh, il est loin de se considérer de la trempe des Dante ou des Scott. Non, non, lui, il écrit comme un malade. Prend des médicaments pour se soigner. Écrire pour lui, c'est une thérapie. Pour oublier les horreurs de la guerre, le stress qu'elle a pu générer. Au fond, comment vouloir à son esprit d'avoir sombré un peu, juste quelque temps. Le principal, c'est qu'il ait réussi à rebondir. Une fois qu'il a eu compris ça, comme par magie, de l'or lui est sorti des mains et il s'est mis à l'ouvrage. Le romancier souffle un bon coup. Enfin, son premier roman est terminé. L'accouchement de ce nouveau personnage qui allait devenir le mythique James Bond, lui, s'est bien passé. En moins de 2 mois, le manuscrit est prêt. Le syndrome de la page blanche ? Ah non, jamais il n'a eu ce problème jusqu'à maintenant, non. Il se sert de sa souffrance, de son expérience de vie, des idées glanées au fil de ses connaissances pour écrire. Au contact des gens, il puise son inspiration, se nourrit de leurs échanges et rend hommage à certaines rencontres marquantes qu'il rend immortelles en les couchant sur le papier. James Bond, certes, mais tous les autres aussi, ne sont pas uniquement le fruit de l'imagination débordante qui est la sienne. Il referme le portfolio qui contient les feuilles de ce premier jet. Il le remettra demain au directeur d'une maison d'édition qu'il connaît bien. L'aventure James Bond va commencer. Ian Fleming finit le fond de verre de brandy qui traîne sur son bureau. Coupe la radio toute proche qui passe du Vivaldi. Les 4 saisons, encore. Puis l'auteur, ancien militaire, rejoint sa salle de bain et se passe de l'eau sur le visage. Son cœur s'emballe depuis plusieurs minutes. La solution qui s'impose à lui dans ce cas-là, c'est d'aller se coucher. Il est tard de toute façon, presque minuit. Le lendemain, il faudra se lever tôt. L'attente de la réponse de la maison d'édition chevillée au corps, il quitte le monde du réel pour les bras de Morphée. Cette nuit-là, Fleming peine à reprendre le contrôle d'une respiration qui se saccade. Mais qu'il se rassure, son heure n'est pas encore venue. Non. Non, avant qu'il ne meure, son œuvre et lui seront passés à la postérité. Romans, films, séries, jeux vidéo. James Bond est devenu une icône. Et derrière sa plume si particulière, Fleming aussi. Notre histoire commence le 12 septembre 1940. Nous sommes à Londres, au cœur de l'effervescence du quartier général de la Royal Navy. Le monde est en guerre depuis un peu plus d'un an. Pour la deuxième fois, à vrai dire, en un peu moins de 30 ans. La Grande-Bretagne, fidèle à ses principes, s'est rangée du côté de la France, des États-Unis et bientôt de l'URSS, qui fera volte-face au sujet de l'ogre nazi. La situation en Europe de l'Ouest est des plus désespérées et l'Angleterre, le dernier et seul phare qui tienne encore debout au milieu de la tempête. Ian Fleming est un jeune homme de 32 ans. Aujourd'hui, des documents sous son bras, il se rend chez son supérieur avec une idée qui pourrait modifier le cours de la guerre. Enfin du moins, il le croit. Fleming a quitté la résidence londonienne de son père il y a une demi-heure. Fidèle ami de Churchill, rien que ça, son paternel lui a mis le pied à l'étrier. Il est devenu officier de réserve, logiquement incorporé alors que la guerre éclate. Il en sait. Son képi de la Royal Navy vissé sur le crâne le protège de la pluie fine qui tombe et ruisselle le long des trottoirs. Il longe Buckingham Palace. Les régiments de la garde sont là. Les sentinelles le saluent à son passage et Fleming lève le nez afin de voir si les couleurs royales sont en berne. Effectivement. Le roi est là aujourd'hui. Quant à sa fille, Elisabeth, elle s'est engagée afin d'incorporer les forces armées du pays. Quelle force de caractère pour une héritière au trône. Oh, il en est impressionné. Sans s'en rendre compte, il s'est arrêté face à la grille principale, perdu dans ses pensées. Souriant en coin lorsqu'il se rend compte de cette pause impromptue, il sort de sa vareuse son ultime cigarette et l'allume tout en reprenant sa marche. La ville est comme en état de siège. Les volontaires du corps expéditionnaire sont revenus après leur repli sur les plages de Dunkerque et la capitale de l'Empire est devenue le dernier QG d'une résistance à l'ordre nazi. En France, déjà, Pétain et ses sbires se sont soumis à Hitler. De Gaulle, lui, s'est replié en Angleterre et loge non loin de chez Fleming. Quelques minutes après, il arrive enfin au QG de la Royal Navy. Là-bas, son supérieur l'accueille à bras ouverts comme chaque matin. C'est son chouchou, disons-le sans honte. Il est aide de camp depuis quelques semaines et son boss, tenez-vous bien, n'est autre que le directeur du service de renseignement de la Navy, un poste clé. Son supérieur l'attend de pied ferme. C'est aujourd'hui qu'a lieu une réunion extraordinaire en présence de Churchill et quelques autres têtes pensantes du gouvernement et de l'armée. Fleming, déjà très inspiré, l'a surnommée l'opération sans pitié. L'objet de cette réunion est connu. Enigma, le système de chiffrage allemand. Le plan est rodé. Un bateau nazi de sauvetage a été repéré au large de la Manche. L'opération qu'il souhaite mettre en place doit permettre le décollage d'un bombardier allemand capturé quelques semaines auparavant. Il est pour cela nécessaire de recruter des membres d'équipage en uniforme de la Wehrmacht et totalement bilingues qui, après avoir émis un signal de détresse, se poseront volontairement en mer, à proximité du navire de sauvetage allemand. Une fois à son bord, les agents doubles prendront possession du navire et des documents permettant de déchiffrer Enigma. Ce fameux système de chiffrage nazi occupe les services de renseignement britanniques depuis le début du conflit, ce d'autant que la bataille de l'Atlantique fait rage et que Hitler a fait renforcer la sécurité du système. Plus aucun espoir pour les Alliés de déchiffrer Enigma. Impossible. Fleming a beau se creuser la tête, le seul moyen de s'en sortir est de mettre la main sur des documents présents sur les navires nazis. D'où la genèse de son plan. Noué de stress et impressionné, il présente sa manœuvre au panel de personnalités qu'il écoute attentivement. Fleming, bien entendu, est impressionné de ce qu'il peut voir ce matin. Des personnes influentes et des matériaux à la pointe de la technologie se déroulent devant ses yeux. La boule au ventre, son stress à lui, vient toujours se coller dans son estomac. Bonjour les dégâts avant un examen quand il était gosse. Sa mère lui donnait toujours un remède traditionnel familial qui semblait plus ancien encore que le monde. Et mine de rien, cela lui avait permis de passer sans encombre toutes ses épreuves orales, celles qu'on redoute tellement lorsque l'on est encore un élève. Il aimerait bien, tiens, aller aujourd'hui botter les fesses du jeune Yann qu'il était alors. Mais soudain, il se retrouve face au plus haut gradé d'état-major d'une armée en guerre. Ce n'est déjà plus la même affaire. À sa gauche, un vice-amiral l'observe de ses grands yeux globuleux, vissés derrière des lunettes plus épaisses que ses semelles. Une moustache impeccablement taillée vient donner à l'ensemble de ce visage une impression disgracieuse. Tout le contraire de lui. Une appréhension à parler en public, certes, mais un charisme à vous retourner la plus fermée des opinions. Son boss, lui, est en bout de table. Le gradé n'est pas inquiet avant cette présentation. Il sait à quel point Fleming est un élément sérieux qui prépare avec minutie tout ce qu'il peut faire. Avec des hommes comme ça, l'Angleterre va gagner la guerre. Le pays sait comment faire. Son père, à lui, avait fait partie du corps expéditionnaire qui perdit l'âme de toute une génération au cœur des Flanders Fields. Oh, il en était revenu, mais à quel prix ? Des traumatismes lui pourrissaient la vie. Des idées noires lui envahissaient la tête. Malgré tout, il avait surmonté cela avec l'honneur et le courage qui caractérisent tous les militaires. Pour l'instant, Fleming est en plein exposé. Et après, sa mission à lui démarre. Son boss, à la suite de ses explications, s'entretient longtemps avec Churchill. Ils acceptent, sans sourciller, l'idée de Fleming. En réalité, l'ambition d'une telle mission est démesurée. Après quelques préparatifs, le plan sera abandonné. Enigma, elle, a encore de beaux jours devant elle. Yann Fleming prend pendant un moment ombrage de cette tentative qui est tombée à l'eau. Pour le sortir de cette spirale négative, son patron l'envoie en mission à Toronto, au sein d'une école d'instruction pour futurs agents secrets. Les classes qui se donnent dans cette maison ordinaire de la banlieue de la ville canadienne seront pour lui une véritable révélation. Son inspiration, à compter de ce moment, décuple de jour en jour. James Bond est en train de naître dans son esprit. Le premier des opus du célèbre agent secret ne sera publié qu'en 1953. Car la guerre qui fait rage jusqu'en 1945 et la nécessité de construire tout un univers autour de son personnage principal ralentit le processus d'écriture. D'ailleurs, Casino Royale, en tant que tel, est rédigé en moins de 2 mois. Son passé de journaliste chez Reuters est un atout supplémentaire pour développer un style littéraire qui fera mouche rapidement. Les inspirations de son univers sont nombreuses. En premier lieu, vient son expérience dans les services secrets de la Navy, bien entendu. D'ailleurs, certaines de ses propres expériences se retrouvent au cœur même de la psychologie de certains de ses personnages. Le vice-amiral Godfrey, par exemple, qu'il côtoie au quotidien pendant plus de 5 ans, est un copier-coller de M, qui, dans la fiction James Bond, est le directeur du MI6. Fleming est un grand admirateur de Kipling. Le roman d'espionnage de son aîné, Kim, est également une œuvre fondatrice pour Fleming et pour l'univers Bond. Plus encore, l'une de ses rencontres durant la guerre aura également une importance cruciale. Fleming a le privilège d'être présenté à Lisbonne à un agent secret, double, entre l'Allemagne nazie et l'Angleterre, un homme du nom de Popov. Et James Bond, alors ? D'où lui vient ce caractère si particulier ? Il est possible de penser que Bond est issu de l'influence de 2 personnages d'importance égale. En premier lieu, un ami de Fleming, lui-même agent du MI6, d'Underdale. L'autre inspiration directe est familiale. Il s'agit du frère du romancier, qui est aventurier, écrivain et chasseur d'animaux rares et recherchés. Il est particulièrement charismatique et correspond parfaitement à la description physique et psychique du plus célèbre des agents secrets. Voilà donc le cadre qui pose les bases de ce personnage central de la culture cinématographique et littéraire. L'univers est fondé, James est devenu Bond, et enfin, il vit d'incroyables aventures sous la plume de son auteur. Mais qui est-il vraiment? Quel est son caractère et sa vie avant le MI6? Eh bien, venez avec moi. Nous allons partir en mission, en compagnie du matricule 007. Juste histoire de le connaître un peu mieux.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache nous mène au cœur de l'univers d'un héros aussi iconique qu'intemporel, celui de l'espion le plus célèbre de tous les temps, James Bond. Alors que nous venons de brosser la construction de cet univers si particulier sous la plume de Ian Fleming, romancier de talent de Sa Royale Majesté, concentrons-nous maintenant sur la personnalité même de ce personnage tout à fait particulier. Mais qui est James Bond? Quel est son caractère, son histoire? Quelles sont ses aspirations? Élément de réponse. James Bond, au-delà de la place qu'il occupe dans la littérature britannique, est aussi un héros du grand et du petit écran, incarné par un total de 8 acteurs à ce jour. Sa date de naissance dépend bien entendu de la date de sortie des films dans lesquels il évolue. Elle diverge donc d'une interprétation à l'autre. Vous êtes prêts ? Lors des réalisations avec en tête d'affiche Daniel Craig, le dernier des 007, il est né en 1968. Pierce Brosnan, le précédent, 1958, et ainsi de suite. Le tout pour arriver à la première de ses naissances, en 1927, lorsqu'il est incarné par l'inénarrable Roger Moore. La suite de son enfance, elle, ne diverge pas. Elle naît sous la plume de Fleming. James Bond est un écorché vif. Dès le plus jeune âge, la vie lui apporte ce qu'elle a de pire, de plus angoissant et de moins bienveillant. Dans un terrible accident d'alpinisme, ses deux parents perdent la vie au-dessus de Chamonix, près du Mont Blanc. Son père écossais et sa mère suisse sont les victimes de mauvaises conditions climatiques, en haut d'un pic montagneux, et le jeune garçon se retrouve subitement orphelin. Il a 12 ans. Fleming meurt subitement d'une crise cardiaque alors que seuls 11 romans sont dans les cartons. Pas assez pour cerner l'entièreté d'une personnalité et d'une histoire des plus complexes. Heureusement pour les fans, ni les romans ni les films ne s'arrêteront après ce décès inopiné du père de Bond. D'autres mains vont venir rédiger scénario et histoire, apportant plus d'épaisseur au personnage. On sait donc, grâce aux auteurs qui suivirent, que Bond a été adopté par le père de l'un de ses pires ennemis, Oberhauser. Devenus frères adoptifs, les deux hommes choisissent des voies différentes et se déchirent. Dans le film Skyfall, Bond et sa patronne se rendent sur les lieux de l'ancienne résidence de la famille. On y découvre même les tombes de ses parents. Dans « Au service secret de Sa Majesté », c'est la devise des Bond qui est révélée. Le monde ne suffit pas. Cela ne vous dit rien? Si, eh oui. Oui, c'est bien le titre d'un des 25 films de la saga. Cela prouve donc une ascendance aristocratique de la famille, remontant à Norman le Bon, au XIIe siècle, tout un programme. Son passé, qu'il soit issu des romans ou des films, est donc sombre. Ses jeunes années, il les passe à l'étranger, maîtrise parfaitement l'allemand et le français. Il fut viré du collège d'Eton au bout d'un an après avoir eu une aventure avec une femme de ménage, même si une autre version mentionne qu'il a rencontré sa première femme à Paris, à l'âge de 16 ans. Il rejoint alors le collège de fête à Édimbourg, l'école fréquentée jadis par son père. C'est là que ses compétences dans tous les types de sports sont remarquées. Il fréquente ensuite l'université de Genève quelque temps. À l'exception d'Eton, ce parcours est calqué sur celui de son créateur, Ian Fleming, qui fréquenta les mêmes écoles. Bond est ensuite diplômé en langues orientales à Cambridge, puis rejoint Oxford pour apprendre le danois. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate à la face du monde, il ment sur son âge en 1941 et intègre la Royal Naval Reserves, la réserve des volontaires de la Royal Navy. Il en sort avec le grade de commandeur, officier supérieur donc. Ce grade éclatant, il le gardera alors qu'il intègre peu après les services secrets britanniques. Il est en effet engagé pour ses capacités par le MI6 et parcourt le monde pour des missions variées, durant lesquelles il sera généralement appelé à tuer. Son patron, la plupart du temps appelé M, a différentes identités qui changent suivant les films. Q, lui, est le concepteur des gadgets à qui Bond rend régulièrement visite avant chaque départ. Bon, généralement, ces missions partent d'un assassinat ou d'une disparition de collègues ou d'un vol d'objets rares recherchés par le MI6 ou la Couronne. Bien souvent, les cibles qui sont définies par son employeur sont bien protégées et 007 doit mener des enquêtes approfondies pour s'en débarrasser. Si les missions sont réussies, c'est bien souvent un extrémiste. Et à chaque fois, il tombe amoureux d'une ou de plusieurs femmes qu'il finit par conquérir et qui, cela arrive, le trahissent sans ménagement. Mais Bond, en grand romantique, replonge toujours un peu plus écorché à chaque trahison féminine. Lors de son incorporation, il voyage en Amérique, en Jamaïque et à Hong Kong. Il gagne ses premiers galons en éliminant un espion japonais à New York. Les deuxièmes, encore une élimination. Celle-là d'un agent double norvégien ayant trahi certains de ses collègues. C'est en 1946 qu'il est présenté à M, qu'il incorpore dans ses toutes nouvelles sections 00. L'aventure peut alors commencer. Il lui faut pour cela être préparé à tuer ou l'avoir déjà fait. Et pour cela, notre agent secret n'a peur de rien. Au contraire. Dans les livres et les films, à chaque fois, il adopte face au risque de disparaître une attitude des plus cavalières. Il résiste à la torture et ne craint pas d'accepter son sort, quand bien même celui-ci le conduirait à la mort. Au cours de sa carrière, il démissionne 3 fois et se met une fois en congé de service avant de revenir sur sa décision à chaque fois. Son sens de l'honneur étant exacerbé, il ne supporte pas les désaccords avec ses employeurs, en particulier avec M. Sa vie privée est plus floue. S'il collectionne les conquêtes lorsqu'il est en mission, sa vie en dehors de son travail paraît plus tranquille. Il habite un bel appartement dans le quartier de Chelsea à Londres. L'endroit est tenu par une vieille gouvernante venue d'Écosse que Bond connaît depuis longtemps. 2 lignes téléphoniques, une personnelle, l'autre reliée directement au service secret, sont réparties dans l'appartement. L'agent n'amène qu'une seule fois une conquête chez lui. Elle finira par se disputer avec la gouvernante et quittera les lieux. Un poil sexiste, il enchaîne les partenaires sans jamais vraiment entamer de relations sérieuses avec elle. Il se marie tout de même une fois, mais sa femme meurt le jour même des noces, assassinée. Avec une autre femme, il aura un fils, James Suzuki, qui lui aussi trouvera la mort. De quoi vous marquer un homme à tout jamais. Les films et les romans nous en apprennent un peu plus sur ses habitudes. Bond est très méticuleux. Il adore les œufs brouillés de sa gouvernante. Le caviar aussi, mais mêlé au jaune d'œuf, s'il vous plaît. Les crabes, les langoustes ou bien encore la viande rouge bien saignante. Pour ses goûters, ah, c'est le foie gras qu'il préfère consommer. Tout un programme, comme vous pouvez le constater. C'est un grand spécialiste des alcools, notamment du champagne, du bourbon, et il adore commander du classique dry martini. Ouais, il flirte également avec la drogue, prenant des amphétamines et fume beaucoup. Enfin, du moins dans les romans de Fleming. Cette vie dissolue et luxueuse pourrait laisser envisager une paix conséquente. Il n'en est rien. Elle est fixée aux alentours de 4500 livres par mois, ce qui, vous en conviendrez également, offre une bonne situation. Mais certainement pas de quoi manger du caviar tous les jours. James Bond est donc un personnage aux multiples facettes qui se nourrit de chaque acteur, de chaque auteur qui a pu contribuer à son histoire. Il est très difficile de résumer et de cerner alors le fond de son caractère et celui de ses pensées. Pourtant, Sa présence sur le petit écran nous semble éternelle et inscrite dans l'histoire. Tant et si bien qu'il nous est presque possible aujourd'hui de nous questionner sur la place qu'il a prise avec le temps. Est-ce que James Bond, finalement, ne serait pas un objet qui incarne la culture du Royaume-Uni, portant en étendard son histoire et ses traditions ?
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre épisode de l'heure H est le premier d'une série consacrée au plus insaisissable et charismatique des espions, James Bond. Après avoir découvert l'homme qui lui donna la vie, ceux qui inspirèrent les personnages de la fiction et le caractère de 007, il nous reste à comprendre la portée symbolique et historique de la saga. James Bond, au-delà des livres et des films à succès, est un héros à la trempe éternelle qui fascine, qui interpelle. Pour mieux cerner l'impact de cette influence, il est indispensable de creuser derrière le vernis d'un homme aux muscles saillants, qui joue constamment de son succès avec la gente féminine. Non, il faut avant toute chose interroger sa place dans l'histoire, celle avec un grand H. Nous sommes à Londres, en 2012. La ville est en totale effervescence à l'approche des Jeux Olympiques qui doivent redonner à l'Angleterre une impulsion économique et une aura culturelle à travers le monde. Après tout, le plus grand empire du monde n'est plus qu'un vieux mirage où les traditions et la monarchie sont les derniers garants d'une certaine idée de l'histoire du royaume. Quoi qu'il en soit, tout le monde se sent concerné par l'organisation de ces Jeux, y compris Sa Majesté la Reine. Et lorsque le comité chargé de la promotion des JO de 2012 propose à Buckingham de collaborer à un spot publicitaire où la reine elle-même serait mise en scène aux côtés d'une autre légende nationale, eh bien, elle accepte, sans sourciller. C'est bien la seule. Son entourage était, disons, plus mesuré. Mélanger fiction et réalité, ce n'est pas toujours garanti de réussir. Mais peu importe, comme toujours, Sa Majesté a eu le dernier mot. Laissez-moi vous faire un résumé de ce spot publicitaire entré dans la légende. Buckingham Palace, un jour de grand soleil. Un taxi noir, typique de la métropole londonienne, entre dans la cour principale du palais sous les yeux d'écoliers en visite avec leur professeur. Le tout sur une musique entraînante, du Handel. Un homme s'échappe du taxi et entre dans le corridor, seul. 4 à 4, il monte les escaliers, smoking sur le dos, nœud papillon bien attaché. Immédiatement, on reconnaît Daniel Craig, le dernier des James Bond. L'air sérieux et grave, comme à son habitude, et il s'avance. Il marche entre deux corgis de la reine qui le suivent d'un air interloqué. Les deux chiens se parlent. Oui. Stupéfait de voir débarquer Bond chez eux. L'espion est amené auprès de la reine qui se trouve dans son bureau. Il est 20h30 sur l'horloge comtoise qui est là. Et Sa Majesté est occupée à rédiger on ne sait quel document. Bond s'impatiente, se racle la gorge. Rien. Pas de réaction de la part de la reine. Elle finit par se retourner et lui adresse un... « Good evening, Mr. Bond. » Elle se lève et les voilà partis hors de la pièce. L'espion juste derrière la reine, tous deux escortés par les corgis royaux. Dans le parc du château les attend un hélicoptère dans lequel la reine grimpe en premier. Elle salue la foule, nombreuse en bas, et ils survolent Londres. Trafalgar Square, Big Ben et la statue de Churchill prend subitement vie. Pour finir, l'hélicoptère des deux héros de la couronne stationne un moment au-dessus de l'O2 Arena, illuminé et rempli de spectateurs en furie. Bond ouvre la portière de l'appareil pour inspecter l'extérieur, puis se retourne vers la reine qui, sans sourciller, saute dans le vide. Bond, amusé, la suit. Et vous pensez que c'est fini ? Eh bien non, vous vous trompez. Cette capsule vidéo est diffusée en direct le jour de la cérémonie d'ouverture et se termine par l'arrivée de la vraie reine et du duc d'Édimbourg dans le stade. Bien entendu, une cascadeuse a pris la place de Sa Majesté dans l'appareil. Cette seule description d'un spot alliant la personnalité la plus célèbre et sacralisée du royaume et son personnage de fiction le plus connu permet incontestablement de placer James Bond comme un objet de l'histoire culturelle de l'Angleterre, certes, mais plus largement dans tous les pays. Il fascine à travers le monde et il serait biaisé de seulement affirmer qu'il a un rapport à l'histoire. Non, il est un objet de l'histoire culturelle et contemporaine. Un mythe même. Dès les années 1960, des chercheurs se sont penchés sur son cas pour produire des études. Et les livres qui lui sont consacrés sont légion. Aujourd'hui, la saga James Bond est la plus longue ayant jamais existé au cinéma. Quoi qu'il advienne, à la fin de chaque film, on sait qu'il reviendra, sous une forme ou une autre, du moins, on l'espère. Et ce cycle sans fin participe à entretenir cette culture populaire dont il est l'artisan principal, quitte parfois à réécrire l'histoire pour donner le beau rôle à la couronne. C'est un fait indéniable. La Deuxième Guerre mondiale est un point d'orgue de la puissance britannique dans le monde. Après 1945, le poids de cette puissance s'effrite petit à petit et le plus grand empire du monde perd de sa superbe. C'est incontestable. Eh bien, les films de la saga James Bond vont, eux, aller à contre-courant. La mécanique est assez simple. Des années 60 à 90, les grands ennemis de l'espion sont avant tout soviétiques et plus largement, l'emprise que veut prendre l'URSS sur le monde. Certes, dans cette lutte sans pitié contre le mal communiste, Bond est le sauveur du monde. Mais si ses parachutes sont aux couleurs de l'Union Jack, c'est tout sauf un hasard. Il est avant toute chose le défenseur ultime de l'honneur de la couronne et de la reine. Ce qui, indéniablement, amène une réflexion d'arrière-plan lorsque nous regardons ses aventures, aussi nombreuses que dangereuses. Celle de la place et du statut international, réel ou supposé, de la Grande-Bretagne. Bond est au fond un symbole de résistance face à la chute d'un modèle, celui de l'Empire. Opposé, parfois associé à des agents de l'URSS, souvent quand ce sont des femmes d'ailleurs, il est bien aidé par les autres services secrets, dont la CIA. Toutes ces nations annexes jouent finalement un rôle secondaire. Le royaume est toujours au premier plan des intrigues et des enjeux. D'ailleurs, pour pousser plus loin la réflexion, lorsque Bond est à Londres, comme lors de la performance au JO en 2012, c'est pour montrer une certaine idée de la ville. Celle de l'impérialisme, des victoires militaires, comme lors du survol de Trafalgar Square, celle d'une Londres séculaire. Et pour le coup aussi, à contre-courant de ce qu'elle est vraiment, multiculturelle et cosmopolite. La seule présence de Bond et du MI6 suffisent à en faire le lieu le plus « safe » du monde occidental. Pas de terrorisme, pas de bouleversement, qu'il soit politique ou sociétaux. Non, non, non. Tout est une affaire de continuité et de stabilité. C'est tout le paradoxe de la saga. Films et romans sont bien ancrés dans l'histoire et la géopolitique de l'époque qui leur est donnée. Oui, mais c'était qu'un cadre général et bien souvent. La réécriture des événements est profonde et permet à la Grande-Bretagne de prendre une place plus que centrale sur l'échiquier mondial. Une place qu'en réalité, elle n'a plus vraiment. Une place qui est vouée au cousin américain qui, dans des épisodes de 007, n'est plus un supérieur, mais un égal, voire un subordonné. C'est d'ailleurs aussi tout le charme de James Bond. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de l'un des acteurs de la franchise. Il n'a jamais joué 007, non, mais l'un de ses nombreux ennemis. À la sortie du film Spectre en 2015, le génial Christoph Waltz, qui évolue aux côtés de Daniel Craig, Léa Seydoux ou Monica Bellucci, est interviewé sur ce que les spectateurs doivent attendre du film. Sa réponse, limpide, permet de mesurer l'impact du personnage de Bond dans l'histoire contemporaine. Il dit ceci. « Je peux vous dire que vous devriez aller voir le film et que tout y sera magnifiquement mis en scène pour vous. Tous vos espoirs les plus fous seront remplis et vos souhaits et vos rêves deviendront réalité. En ce qui concerne Bond, bien sûr, le reste, c'est votre affaire. » Le poids de l'immortalité et l'honneur de la couronne encore et toujours. Voilà ce qu'est James Bond. Un mythe contemporain qui, au fond, au gré des acteurs qui se succèdent pour le représenter, s'efforce de se réinventer et de transcender l'opinion. Il n'y a finalement pas un seul James Bond. Ils sont plusieurs, nombreux, et donnent à la tessiture de ce personnage unique une complexité de vie et d'esprit qui n'a de cesse, au fil des films ou des livres, de devenir toujours plus impénétrable et de faire d'un personnage de fiction une véritable légende, presque divine. Voilà pour cet épisode spécial Band in Motion que nous vous proposons dans le cadre de l'exposition exceptionnelle à Brussels Expo. Un récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.